2. C'est bon, on m'entend bien? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, on a eu, comme chaque été, quelques jolies nuits cet été, avec des ciels dégagés, étoilés. Et quand on observe le ciel étoilé, son étendue, sa beauté, son immensité, et qu'on se laisse saisir par ce spectacle qui nous dépasse absolument, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on touche du doigt quelque chose du privilège incroyable qui est le nôtre de pouvoir entrer dans l'intimité du Créateur. Un privilège qui nous a été acquis à la croix, on l'a rappelé ce matin plusieurs fois déjà, par Jésus-Christ, parce qu'il a, par son sacrifice, déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Ce voile, c'est celui du péché, de notre péché. Jésus-Christ l'a pris sur lui, il est mort à notre place, et lui nous a revêtus de sa justice, de telle sorte que Dieu nous accueille non pas parce que nous sommes parfaits, fantastiques, merveilleux, mais parce que Christ, lui, est parfait, fantastique, merveilleux, et que nous sommes unis à lui. Quand nous prions, nous sommes devant le trône du Créateur du ciel et de la terre, et on parle avec lui. On noue une relation avec lui. On apprend à le connaître, et on l'a dit la dernière fois, il est aussi important de se laisser connaître de lui. On apprend à aimer celui qui nous a aimés, en fait, le premier. Et je me plais à rappeler de temps en temps que dans une relation dynamique, dans une relation d'amour, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de case à cocher, comme si notre temps passé avec Dieu était un devoir à accomplir. Bien que de temps en temps, cocher des cases, ça peut être intéressant aussi, parce qu'on oublie parfois de dire merci, on oublie d'être reconnaissant, on oublie de lui dire qu'on l'aime, un peu comme dans toute relation amicale ou amoureuse. En tout cas, les apôtres se sont tournés vers Jésus pour lui dire « Seigneur, apprends-nous à prier ». Finalement, notre cœur est si tordu, si abîmé par le péché, qu'on ne sait plus. On ne sait plus spontanément être dans une relation saine avec Dieu. Ni avec Dieu, ni les uns avec les autres d'ailleurs. On a du mal, on peine. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être redressé. Pour être un bon mari, pour être une bonne épouse, pour être un bon parent, un bon fils, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par l'Esprit Saint. Et pour être un bon enfant de Dieu, capable d'entrer dans une relation saine avec le Père, eh bien on a aussi besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par l'Esprit Saint. Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors comment est-ce qu'on peut apprendre à prier selon le cœur de Dieu? Eh bien évidemment, la Bible nous y aide, et dans la Bible, on a un livre qui nous y aide tout particulièrement, c'est le livre des psaumes. Alors on ne va pas lire tout le livre des psaumes, il y en a 150, mais on va lire les deux premiers. On va lire les deux premiers aujourd'hui, psaumes 1 et 2. Ce sont les psaumes qui introduisent donc le psautier. Et ces psaumes nous disent ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples grondent-ils en vain? Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Brisons leurs liens, secouons leurs chaînes. Ils rient, celui qui habite le ciel. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai investi mon roi sur Sion, ma montagne sacrée. Je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations comme patrimoine, comme propriété, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme une poterie, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du bon sens. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Soyez dans l'allégresse en frissonnant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne disparaissiez en chemin. Car sa colère s'enflamme vite. Heureux tous ceux qui trouvent en lui un abri. Seigneur, à nouveau, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te remercions pour cette parole qui est vivante, qui vient nous travailler semaine après semaine, jour après jour, année après année, Seigneur. Tu nous transformes, tu fais ton œuvre en nous par ta parole et nous te prions qu'il en soit ainsi encore ce matin. Amen. Alors, j'ai voulu lire les deux premiers psaumes ce matin et ce n'est pas commun, me semble-t-il, parce que habituellement, on prend, un peu comme on l'a fait, comme je l'ai fait moi-même d'ailleurs dans le temps de prière, on prend plutôt les psaumes un par un, comme si, un peu comme s'il s'agissait d'une boîte de fiches. Il y a des psaumes pour louer, il y a des psaumes pour se réjouir, il y a des psaumes pour pleurer, il y a des psaumes pour exprimer sa colère, et selon le besoin du moment, on pioche le psaume qui convient. Et lire les psaumes 1 et 2 ensemble, c'était une manière pour moi de rappeler deux choses. La première, que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais je vais quand même la mentionner, c'est que ces deux psaumes en fait forment une unité. C'est les deux psaumes qui introduisent le psautier. Et puis la deuxième, dont je vais parler un peu plus longuement, c'est précisément que le livre des psaumes, ben, ce n'est pas une boîte de fiches, il constitue un ensemble organisé. Et cette organisation, elle nous place dans le contexte de la communauté, dans le contexte du peuple de Dieu que nous sommes. Le livre des psaumes, il est organisé en 5 livrets, et chacun de ces livrets se termine par une doxologie, c'est-à-dire par des paroles qui disent la gloire de Dieu, qui glorifient Dieu. Et ces deux premiers psaumes, donc, je l'ai dit, constituent l'introduction du livre. Ce livre, il n'a pas été rédigé ni organisé d'une traite. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis, qui a rédigé 150 psaumes, pauvre, dans l'ordre, bien classé, etc. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'est constitué progressivement, en grande partie sous les règnes de David et de Salomon, donc on est entre 1000 et 930 avant Jésus-Christ, mais il n'a pas eu tout de suite cette organisation qu'on lui connaît. En fait, l'organisation en 5 livrets trouve son aboutissement entre 200 et 300 ans avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'il est agencé comme ça? Il y en a qui ont avancé que le regroupement en 5 livrets fait écho aux 5 livres du Pentateuque. Et compte tenu de l'importance de la symbolique des chiffres dans la mentalité hébraïque, c'est possible que ce soit comme ça. Il y a une autre hypothèse qui est avancée que je trouve intéressante et que je vais vous partager. Pour comprendre cette autre hypothèse, il faut faire un bond en arrière dans l'histoire. L'acte fondateur du peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. À ce moment-là, Israël prend conscience d'être un peuple différent, d'être un peuple souverain qui est séparé des autres nations, parce qu'il y a là, dans son histoire, un acte décisif de la part de Dieu à son encontre. Les 10 commandements sont introduits par cette parole, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de la servitude ». Il y a une alliance irrévocable entre Dieu et son peuple. Une alliance qui plus est, qui est unilatérale, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de ce que le peuple va faire ou ne pas faire. Israël est le peuple que Dieu s'est constitué. Ésaïe nous dit « Quand même les montagnes seraient ébranlées, mon alliance ne vacillera jamais ». Et pourtant, ce peuple va vivre quelque chose d'impensable, inimaginable, quelque chose d'absolument dévastateur. Alors que le peuple a cette conscience forte qu'il est le peuple de Dieu, qu'il a cette conscience forte de l'alliance que l'Éternel a passée avec lui, voilà que survient la destruction du temple et la déportation à Babylone. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens font tomber le royaume du Nord. Il n'y a plus de royaume du Nord. 2 siècles plus tard, les Babyloniens font tomber le royaume du Sud. Il n'y a plus de royaume du Sud. Autant dire qu'il n'y a plus de royaume du tout. Le temple est détruit, les notables sont déportés, Israël comme nation n'existe plus. C'est rayé de la carte. Et donc la grande question qui se pose pour tout Israélite, c'est « Mais enfin, qu'est-ce qu'il en est de l'Alliance ?» de l'alliance de Dieu avec son peuple. Qu'est-ce qu'il en est de la fidélité du Dieu d'Israël ? Et ça, c'est le grand questionnement des psaumes. Le livre des psaumes, c'est le témoignage de cette interrogation fondamentale. Dans les vies individuelles, d'abord, avec David, par exemple, qui se questionne sur des événements précis de sa vie, mais aussi au niveau communautaire, puisque, selon certains théologiens, l'agencement en cinq livres, qui, je le rappelle, s'est fait après le retour de l'exil, ferait en fait écho à l'histoire du peuple d'Israël. On aurait les 41 premiers psaumes qui feraient écho à l'émergence du peuple, ce moment où Dieu se constitue un peuple. Les psaumes 42 à 72 qui feraient écho à l'installation dans la terre promise. Les psaumes 73 à 89 qui feraient écho à la chute, à l'infidélité d'Israël. Et finalement les psaumes 90 à 106 qui feraient écho au renouveau, c'est-à-dire au retour de la captivité, à ce moment où les choses se rebâtissent. Et ces quatre étapes nous amènent au cinquième livret, que sont les psaumes 107 à 150, qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Donc c'est un livre qui nous rejoint à la fois dans nos vies individuelles, dans nos difficultés individuelles, dans ces moments qui nous concernent nous personnellement, qui peuvent être difficiles, ou les moments de joie, etc., nos vies à nous, mais aussi dans notre vie communautaire comme peuple de Dieu. Alors, si on est inquiet pour l'avenir de l'Église, par exemple avec les difficultés passées et peut-être à venir à nous réunir, avec la pandémie, avec voilà, tous les troubles qui peuvent survenir, on peut se rappeler de ce vécu du peuple d'Israël et trouver du réconfort dans les 4e et 5e livrets. Ce vécu, il nous dit que quand bien même on serait dans la diaspora, c'est-à-dire disséminé, dispersé, quand bien même on serait dans l'impossibilité de nous réunir comme peuple de Dieu, le Seigneur reste fidèle à son alliance. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. En Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre qu'il construira son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. On peut rester dans cette confiance-là. Mais à titre individuel, on peut aussi passer par des moments de crise qui nous font poser cette question. Où est Dieu ? Qu'en est-il de son alliance ? Il y a plusieurs mois de ça, j'ai appris le décès d'une jeune femme chrétienne alors qu'elle donnait naissance à son bébé. Et les deux sont décédés. Ce qui devait être un jour de célébration, un jour de joie, un jour d'accueil de la vie, s'est transformé en cauchemar, quoi. Où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il en est de son alliance ? On a tremblé il n'y a pas si longtemps que ça pour un enfant de notre propre communauté dont on se réjouit de le savoir parmi nous. Et on a tremblé. Et on a prié. On peut légitimement se poser ces questions. Où est Dieu ? Qu'en est-il de son alliance ? Le livre des psaumes nous y autorise. Si les psaumes sont tellement à même de nous rejoindre et de nous accompagner dans notre vie personnelle et communautaire, c'est parce que nous sommes faits du même bois que les Israélites. On passe par des périodes fastes et puis on passe aussi par des chutes. On passe par des moments de bénédiction, de grande bénédiction, et puis on passe aussi dans nos vies par des moments de profonde interrogation vis-à-vis de ce que Dieu est en train d'accomplir. On passe par des moments de stabilité, c'est le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça fait du bien. On passe par des moments de désorientation, c'est le psaume 13, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand ça va durer ?» Et puis on passe aussi par des moments de réorientation où on a vu le Seigneur agir. Béni soit le Seigneur, parce qu'il entend mes supplications. C'est le psaume 28. Et donc dans ces psaumes, on trouve toute la diversité de nos états d'âme, de nos émotions, de nos questionnements, tant dans nos vies personnelles que dans notre vie communautaire. Ils font écho à ce qu'il y a de plus humain en nous. Ils sont, on pourrait dire ça comme ça, la vie pour de vrai, la vie sans tricherie, sans fard, sans le décorum de nos traditions d'Église, sans nos préjugés sur ce que devrait être un bon chrétien, les psaumes sont bruts de décoffrage. Mais ce recueil de prières a aussi quelque chose de plus, quelque chose d'incroyable en fait, quelque chose qui rend les psaumes, ces prières des psaumes, absolument uniques et qui les distingue tout à fait de nos propres prières. Et c'est de ça dont je vais parler maintenant, parce que c'est ça, je crois, qui les rend particulièrement intéressants. Les psaumes, c'est un recueil de prières, mais ce sont des prières d'un genre tout particulier parce que ces prières-là sont paroles de Dieu. Vous aviez déjà pensé à ça? Ces prières-là sont paroles de Dieu. Elles sont dans nos Bibles. La prière, par définition, est parole humaine. La prière, c'est une parole qu'un être humain adresse à Dieu. Et c'est aussi le cas des psaumes. À ce détail près que les psaumes sont aussi paroles de Dieu. Et ça, c'est tout à fait unique. Ça fait de la prière des psaumes, on pourrait dire, la prière de l'être humain accompli. C'est intéressant de lire les psaumes comme ça. Se dire, ces prières-là, c'est les prières d'un être humain accompli. On pourrait dire que c'est la prière qui monte vers le Père sans que l'Esprit-Saint n'ait besoin d'intercéder, parce qu'elle est la prière par excellence, elle est celle vraiment selon le cœur de Dieu. Et c'est important de comprendre, je crois, que c'est une prière, en fait, qui est quelque part au-delà de nos forces. Nous, on a besoin de l'assistance de l'Esprit. Mais la prière des psaumes, c'est la prière selon le cœur de Dieu. Au point qu'on peut dire d'elle qu'elle est parole de Dieu. Et il y en a qu'un qui répond à la définition de l'être humain accompli, qui peut prier de cette manière-là. Un seul a pu prier comme ça, et ce n'est pas David, même si les psaumes, beaucoup de psaumes sont de David. Ça n'est pas Salomon, même s'il y a des psaumes de Salomon. C'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement de l'humanité. Ce qui fera d'ailleurs dire à David, dans ses dernières paroles avant de mourir, en 2 Samuel 23, 2, on lit ça, il a dit « Le souffle du Seigneur a parlé par moi, sa parole est sur ma langue. » Sa parole est sur ma langue. C'est Jésus qui parle par la bouche de David dans les psaumes. Alors, ça ne signifie pas qu'il faudrait se mettre à réciter bêtement les psaumes en disant « ça c'est de la bonne prière, ça c'est la prière pure, sans défaut. Si je prie comme ça, c'est bon, impeccable. » Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de la lettre, il s'agit de l'esprit. Dans la lettre, en fait, dans les psaumes, si vous lisez les psaumes, vous verrez qu'on y lit des choses terribles, des choses absolument terribles. J'ai cité déjà le psaume 44, parce que vraiment, quand on le lit, on se dit, mais ça frise le blasphème. Au verset 23 de ce psaume, le psalmiste dit à Dieu, « C'est à cause de toi qu'on nous tue sans cesse. » Vous diriez ça dans vos prières? Moi, j'ose pas, franchement. « C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous tue sans cesse. C'est ta faute. C'est toi qui fais ça. » Jacques dirait non, 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 Dieu ne fait pas le mal, mais le psalmiste, il y va, il n'a pas peur. C'est super tendu théologiquement, en fait. Mais l'esprit de cette prière, c'est-à-dire ce cri du cœur qui déverse son incompréhension avec une incroyable violence, en fait, en allant jusqu'à accuser Dieu ici, aussi incroyable que ça puisse paraître, il est accueilli par le Seigneur. Contre toute attente, il l'agrée au point qu'on le trouve aujourd'hui dans nos Bibles. Mais on comprend bien, je crois, que ce qu'il agrée là, ce n'est pas le contenu. Ce qu'il agrée, c'est l'attitude de cœur du psalmiste. Cette attitude qui fait que le psalmiste s'ouvre complètement, transparent, devant son Dieu. Cette attitude qui fait qu'il ne joue pas, il ne triche pas, il n'essaie pas de maintenir la forme. Et je crois que ce qui est bon, ce qui est agréé de Dieu, c'est que cette colère qu'il éprouve, cette incompréhension qu'il éprouve, loin de le détourner de Dieu, ce qui pourrait être le cas, en fait, le jette à ses pieds, le jette à ses pieds en transparence et en vérité. Voilà ce que permet une relation intime de cœur à cœur où on ne triche pas. Une relation qui fait dire à Jésus-Christ « Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» On a là quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui parle le langage du cœur de Dieu. Et au fond, c'est ça qu'on souhaite vivre. Sauf que nous, on ne sait pas parler. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas parler le langage du cœur de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut apprendre à parler ce langage? Eh bien, on peut se demander comment le petit homme apprend à parler. Comment est-ce qu'ils apprennent à parler? Il apprend à parler en écoutant son papa et sa maman. C'est là qu'il apprend le langage de ses parents. Et petit à petit, ce langage-là lui devient familier. Il va commencer à balbutier, et puis il va articuler quelques syllabes. Et puis à la fin, ça va donner « papa, papa ». C'est chouette. Nous aussi, « papa ». Il fait des mots, Puis après, il fait des phrases. Et puis à 5 ans, vous ne savez plus comment le faire taire. Non ? Enfin, chez nous, c'était comme ça. Et ça continue. Et c'est pareil pour nous. On apprend à parler le langage du cœur de Dieu en écoutant notre Père Céleste parler. Et où est-ce qu'on entend notre Père Céleste parler ? Le psaume 1 nous le dit. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents. C'est pas là. C'est pas là. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Qui redit sa loi jour et nuit. On la répète, on s'entraîne et puis on finit par apprendre à parler selon le cœur de Dieu. Cet homme-là est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est dans l'Écriture qu'on entend Dieu parler et qu'on peut apprendre son langage. Un grand théologien, Alain Auderset, vous connaissez ? C'est un auteur de BD en vrai. C'est un auteur de BD chrétienne. Il dit un truc amusant à ce sujet dans son témoignage de conversion. Il dit que quand il a lu la Bible la première fois, on lui avait expliqué que c'était la parole de Dieu. Et il dit, la première chose que j'ai appris en lisant la parole de Dieu, c'est que Dieu parle en vieux français. Alors, là encore, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'apprendre un vocabulaire, un phrasé, une manière d'imiter le style de la Bible, ce qu'on appelle parfois le patois de Canaan. Il ne s'agit pas d'adopter un style de prière évangélique ou d'imiter même le style de la Bible. 2 Timothée 3,16 nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il nous dit « toute écriture est inspirée de Dieu ». Et ce que dit exactement le texte, enfin le mot grec, c'est qu'en fait, ce qui est traduit par « inspirée », c'est plutôt qu'elle est exhalée de Dieu. Elle provient de son souffle. Elle provient de son souffle. C'est « theopneustos ». Elle provient de son souffle. Et c'est en ça qu'elle est inspirée. Elle émane de lui. Elle émane de son souffle. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit. C'est le même mot en grec. Et parler le langage de Dieu, c'est donc pas copier un vocabulaire, sans quoi il faudrait prier en grec et en hébreu, hein, puisque c'est dans ces langues-là que les auteurs bibliques ont été inspirés. Non, parler le langage de Dieu, c'est prier par ce même esprit qui a inspiré les Écritures et qui nous permet donc, par les Écritures, de connaître Dieu. Ce que ça nous dit, c'est que la relation à Dieu, ça n'est pas que une simple disposition de cœur, mais qu'elle puise sa source dans les Écritures. Sans les Écritures, notre prière, c'est au mieux, je dirais, un élan mystique, sans attache, qui, loin de nous rapprocher de Dieu, en fait, nous emmène vers des idoles qui nous mènent à la ruine. La prière chrétienne est au contraire nourrie par les Écritures, parce que c'est là que se révèle le cœur de Dieu. C'est par elle que l'Esprit Saint renouvelle notre intelligence. Heureux, dit le psalmiste, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. C'est celui-là qui est comme un arbre, solidement enraciné, qui plonge ses racines dans la source même du Christ. Alors j'arrive à la conclusion, et en résumé, qu'est-ce que c'est finalement prier selon le cœur de Dieu ? Eh bien c'est d'abord se laisser rejoindre par Dieu dans notre histoire individuelle, et puis aussi dans notre vie communautaire. Nous sommes des individus, nous avons des vies singulières, des joies et des peines qui nous sont propres. Voilà, on n'a pas les mêmes difficultés, on ne traverse pas les mêmes épreuves, on n'est pas au même moment dans nos étapes de vie. Et on est aussi membre d'un corps, le corps du Christ. Nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Notre relation à Dieu, est à la fois individuelle, c'est moi et mon Dieu, et puis elle est aussi communautaire, c'est nous et notre Dieu. Et à travers les psaumes, ces prières donc selon le cœur de Dieu, nous voyons que non seulement Dieu nous rejoint, mais aussi qu'il accueille une grande liberté de parole de la part de ses enfants. En fait, on voit qu'on peut se mettre absolument à nu devant lui, être complètement transparent, sans fard, sans triche. Et on n'ose pas toujours le faire, on n'ose pas toujours être dans cette transparence. Et je suggère que c'est parce qu'on ne le connaît pas encore suffisamment. Et à dire vrai, tant que Jésus ne sera pas revenu, notre connaissance demeurera partielle. Nous voyons, nous dit Paul, comme dans un miroir, C'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens 13, 12. Néanmoins, on peut connaître Dieu et on peut se laisser connaître de Dieu. Et je parle évidemment de cette connaissance relationnelle, cette connaissance de cœur à cœur. On peut apprendre à parler son langage, à reconnaître sa voix. Et la voie royale pour ça, eh bien, ce sont les Écritures. Plus nous les méditons, plus nous les ruminons, plus nous nous en imprégnons, plus nos prières seront selon le cœur de Dieu. Et cette intimité-là, elle n'a pas de prix. Alors, je voudrais vous proposer plusieurs choses. La première, je n'y avais même pas pensé, mais j'y pense maintenant, c'est qu'il y a des groupes de maisons. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre quelque chose, mais il y a des groupes de maisons dans lesquels on étudie cette parole. Donc, c'est une bonne idée de rejoindre un groupe de maisons dans lequel on lit de façon communautaire, à plusieurs, la parole de Dieu, on la médite ensemble, on confronte ce qu'on en comprend, et ça nous aide aussi à connaître et à reconnaître cette voix de Dieu. Ça nous aide aussi à reconnaître la diversité qu'il a dans sa manière de nous parler aux uns et aux autres, parce que nous sommes tous différents, avec des vies différentes, et c'est intéressant d'entendre les témoignages des frères et des sœurs. Ça, c'est une option possible. Une autre, c'est plein de propositions, en fait, après, vous faites ce que vous voulez avec, c'est ce petit document qui, de loin, doit faire peur. Ça, c'est un plan de lecture. C'est un plan de lecture de la Bible. Alors moi, je suis peut-être un peu original, mais moi, je fais mon propre plan de lecture. Je me le fabrique moi-même avec mes petits doigts et tout. J'y passe des heures parce que je me dis, je veux lire tant de pages par jour. Donc, je coupe les chapitres moi-même, je remplis mon petit tableau. Voilà. Et chaque année, je le renouvelle. Et là, j'ai fait un plan de lecture en 3 ans. Donc là, vous avez la première année qui est sur cette feuille, qui commence à partir de septembre, donc vous avez déjà du retard, là, il va falloir rattraper. Mais cette feuille, vous la trouvez à l'entrée. Voilà, vous pouvez la prendre si vous voulez, si vous n'en avez pas et que vous vous dites, tiens, ça serait une bonne idée. Ça représente, dans cette Bible-là, qui est donc toute petite, une page et demie à lire par jour. Voilà, avec une page et demie par jour, on lit la Bible en 3 ans. Si vous voulez essayer de vous motiver, vous pouvez faire ça. Et puis, une troisième option, peut-être plus pour la semaine, c'est ces versets qui sont là. Vous vous rappelez, Emmanuel nous avait proposé ces versets pour accompagner notre journée. Je trouvais ça super joli. Alors, je vous en ai fait un petit tableau pour chaque jour, on peut dire. Vous pouvez méditer un verset au réveil. Voilà, au réveil, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour, ses bontés se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. On démarre la journée avec ça. Puis après, avant de commencer son travail ou ses activités, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. On peut méditer ça et essayer de l'appliquer, évidemment, dans nos vies. En fin de matinée, on peut se rappeler Ésaïe 44 qui nous dit « J'ai passé l'éponge sur tes fautes, les voilà effacées, disparues comme un nuage qui passe, je t'ai libéré, reviens à moi. » Peut-être qu'il y a un temps de repentance à avoir à ce moment-là. On a passé la matinée, on a eu le temps de dire des âneries, on a eu le temps d'en faire aussi. Voilà, donc on peut accueillir le pardon de Dieu à ce moment-là. En début d'après-midi, on peut se rappeler que l'amour de Dieu est long, large, haut et profond. Et ça, c'est pour nous aussi. En rentrant à la maison, on peut se rappeler que les paroles aimables sont un rayon de miel. Si on revient chargé avec le poids du travail, avec des contrariétés, on peut essayer aussi de se recentrer un peu avec des paroles aimables qui sont douces pour le cœur et bienfaisantes pour le corps. Et puis, avant de dormir, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main puissante et victorieuse. Voilà, donc ça, si ça vous tente d'essayer de passer quelques jours accompagné par ces versets-là, eh ben c'est pareil, ces deux feuilles sont à l'entrée, là-bas, j'ai fait des tas. S'il n'y en a plus à la fin, eh ben, j'en réimprimerai dans le courant de la semaine et vous les trouverez dimanche prochain. Sinon, ça peut aussi être envoyé, une chose et l'autre peuvent être envoyées aussi par email, peut-être avec les annonces, par exemple. Voilà de quoi méditer cette parole, voilà de quoi s'en imprégner, apprendre à reconnaître la voix du Seigneur dans nos vies, et ça vient aussi enrichir nos prières, parce que dans nos prières aussi, Dieu nous parle, il nous parle personnellement, Et parfois, on peut se demander, c'est bien Dieu qui me dit ça, ou ça vient de moi, ou ça vient d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Eh bien, si on est familier avec cette parole de Dieu, on reconnaîtra la voix du Seigneur dans nos vies aussi. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Et nous allons nous lever pour chanter ensemble « Te connaître, Jésus ». Te connaître, il n'est rien de meilleur. C'est ce à quoi on